Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est donc l'heure du live. Et comme la musique, juste avant, le laissait présager, il s'agit bien sûr du Pirate Talk, le live où l'on parle de cybersécurité, de l'actu en général de la sécurité, un peu de hacking, un peu d'éthique aussi également, tout en jouant à Sea of Thieves. Donc aujourd'hui, je serai sur ce bateau, qui n'est pas le mien, je ne sais pas, on va demander au capitaine comment s'appelle son bateau, mais donc je serai avec Uzarax, en tout cas dans le jeu, et en vocal avec un peu plus de monde. Je vais tout de suite vous les démute pour qu'on puisse entendre tout le monde. Hop là. Bonjour dans le vocal. Comment ça va
Hello.
bien?
Ça va, ça va.
Alors, est-ce qu'on t'entend bien par contre? Vas-y, dis-moi un petit mot.
Je ne sais pas trop quoi dire à chaque
Ouais,
fois.
voilà, je vais monter un petit peu le son parce que tu es un peu faible.
Alors, attends.
Non, non, c'est bon. Voilà, hop, j'ai réglé. Tout va bien.
Ok.
Alors, du coup, je t'ai mis un peu trop fort. Je dose. Voilà. Ça va être pas
Décidément.
mal. Ah non, mais c'est tout un art, hein. Évidemment, je le fais en live parce que ce serait pas drôle de le faire en préparation, hein. Vous me connaissez. Et bonjour le chat, oui, bonjour le chat. Bonjour Poseidon Chic, bonjour El Cafou, bonjour Cabot, bonjour Alone, bonjour Will et plein de chiffres, bonjour Winidé, et bonjour tous les autres qui n'ont pas encore dit bonjour. Ah oui, je me posais cette question, Uzarax, puisqu'on est
Oui.
sur ton bateau. Comment s'appelle-t-il?
Alors, c'est vrai qu'il y a la future mise à jour. Ben, je pensais l'appeler la bénédiction du spectre, mais en anglais, vu que j'aurai la totale spectre blanche or, mais dans 3 semaines, peut-être plus. Vu
D'accord.
que.
Donc tu veux l'appeler?
The Blessing Spectre, j'imagine.
Spectre Blessing, ouais. Spectre Blessing. On est très bon en
Oui.
anglais, hein. Attention. On est là pour faire de la traduction, pas de souci.
Non, de Peter Placine, ouais. Si j'ai de la place, en tout cas. Parce qu'il faut
Oui,
14
bah,
caractères,
je
il me
sais plus
semble.
combien de caractères. Bon, de toute façon, on n'a pas le droit de le dire pour l'instant. Et on ne sait pas quand est-ce que ça sortira. Mais en tout cas, moi, enfin, dans le lore, hein. Même si dans le jeu, il n'y en a pas la fonction. Quand c'est mon bateau, en fait, on l'appelle le troll des mers, tout simplement. Tout simplement. En tout cas, le chat, tiens, petite nouveauté, j'en profite avant qu'on démarre vraiment la partie Pirate Talk. Tous les gens qui sont là dans le chat écrit, pour info, ceux qui sont sub à la chaîne ont accès à tous les emojis. Je les ai rajoutés, en fait, les emojis que vous avez sur le Discord. Les mêmes en fait, hein. Alors il y en a un peu moins parce qu'il y a un peu moins sur Twitch, mais j'ai remis tous les emojis que vous avez dispo sur le Discord également sur le Twitch à partir du moment où vous êtes premier sub, là, le tier 1, il n'y a pas de souci, vous les avez. Donc vous pouvez faire tous les émotes avec la casquette et tout, il n'y a aucun souci. Et puis bah, on va démarrer le bateau, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais envie de faire, t'as mis une petite quête ou non?
Éventuellement, non. Pour le moment, j'ai pas d'idée. Mais je vois qu'il y a un fort normal, il y a un joueur en face.
Ce que tu
Peut-être un peu
veux, après,
PVP, je pense.
avec toujours cette petite information que je vais pas jouer beaucoup, mais voilà, je ne serai pas un homme d'équipage très utile.
A pas de souci.
Bonjour Dolin et bonjour The Big Game of Ski. The Big Game of Ski, et d'ailleurs, Dolin et The Big Game of Ski sont des modos. Hein. Je le précise pas souvent, mais j'ai plein de modos sur le chat. Ils servent pas beaucoup parce que vous êtes très sage, mais donc n'hésitez pas à faire des conneries, ils sont là. Ils sont là prêts à tout. Prêts à en découdre. Eh ben, il y a un petit sloop émissaire au fort là-bas, à droite.
Plus qu'à ma
Avant-droite.
gauche.
Et un autre à gauche, effectivement.
Je me dirais peut-être du PVE, si on trouve des squelettes et
Et bah, ce que tu veux, de toute
comme ça.
façon, moi je vais probablement beaucoup parler et assez mal jouer, donc il n'y a pas de
Parce
lézard.
que je suis habitué à être solo.
Voilà, exactement. Du coup, dans le vocal, je sais plus s'il y avait d'autres personnes. Bon, en tout cas, vous pouvez toujours, tous ceux qui veulent peuvent venir, évidemment, à partir du moment où vous êtes dans le Discord depuis un certain temps, en fait. Vous avez normalement le grade qui vous permet de rejoindre, donc c'est le chat Pirate Talk dans le live, si vous avez envie de parler. Il n'y a pas de souci, sinon vous pouvez faire en écrit. Je suis là pour lire aussi les écrits, évidemment. Pif paf pouf, qui c'est qui vient de passer? Merci pour le follow, Pauline04. J'espère que tu n'es pas un bot. Non, tu dis bonjour, donc tu n'es pas un bot. Parce que on a eu pas mal de vagues de bots. Normalement, ça s'est calmé. Ça devrait se passer correctement. Hop là, donc on va se diriger vers ce que le capitaine décide en fait. C'est pas moi le capitaine
Non.
aujourd'hui.
On a un stop à droite qui fait le forteresse.
Et nous allons pouvoir aborder un petit peu les sujets que j'ai marqués comme traditionnellement. Hop, sur mon post-it, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu. Tant
Oh,
pis pour vous.
j'ai une idée.
Vous avez une idée?
As-tu l'occasion de te faire, enfin de faire, de récupérer la lanterne secrète et limiter dans le temps?
Je crois que c'est déjà fait, oui.
Ah,
Mais
c'est de
elle
Grèce.
est.
Ok.
C'est encore ouvert ou pas?
Oui, elle est toujours, elle est toujours.
Ok. Bah, non, mais fais ton truc, de toute façon, je vais pas.
Ok, non, c'était pour toi, pour Chaos, si tu l'as pas
Il
eu.
n'y a pas de souci. Du coup, alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur mon post-it? Vous l'avez tous lu, normalement, vous le savez. Moi, je veux bien du thé, je suis malade. Oh, bah alors, du thé pour Doline, s'il vous plaît. Je sais pas qui habite pas loin. C'était du côté de la Normandie, si je me souviens bien. Donc, envoyez du thé à Doline, merci. Ce sera très sympa. Un petit rhum pour le Mickey Mouski. Bon, bah voilà. Classique. Et merci pour le follow Nozex TV. Nozex TV. Et bien le bonsoir. Tu n'es donc pas un bot. J'aime bien les gens qui follow et qui ne sont pas des bots. C'est cool. Paulin, je suis un gars. Ah, pardon, excuse-moi. Mes excuses, toutes plates. Il n'y a pas de souci. Donc, bienvenue à toi, Paulin. Aucun problème. Hop là, j'ai mon écran qui déconne. Tout va bien. Attendez, on règle les soucis techniques. On y arrive. Voilà. On est bon. Ça a lagué un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'entends? Ah oui, c'est le fort, t'es à côté? D'accord.
Oui, mais il n'y a pas à se faire. Il y a trop de gens aux alentours. Pour pas grand-chose en plus.
Ils viennent d'où les bots? Ou j'en sais rien, c'est des bots de Switch? Ah, alors, hop là, ça c'était rien. C'était ma fille qui jouait avec la musique de Spotify. Et du coup, ça a joué sur mon écran aussi. Bon, on va s'en sortir. Bougez pas, on arrête les problèmes techniques, on devrait y arriver. Donc, de manière plus sérieuse. Donc, j'avais quoi dans mes sujets? Allez, on commence parce que si on va jamais démarrer. J'avais quoi? Il y a la faille dont vous avez sûrement tous entendu parler si vous avez regardé un petit peu la sécu. C'est la faille Folina.
Je sais pas
Folina.
comment c'est.
Donc la faille Folina, en fait, c'est une grosse grosse faille 0D qui est sortie. Ça fait bien 2 semaines maintenant. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs, on va dire, étages dans cette faille-là. Globalement, telle qu'elle s'est présentée, c'est via un document Word pourri, quoi, hein, malveillant, qui en fait appelle un template, une URL en fait dans le Word, et cette URL en fait exploite une deuxième sous-faille, si vous voulez, de l'outil de diagnostic Windows. Donc, qui s'appelle msdt.exe, un truc comme ça. Donc la faille s'appelle Folina, je crois que c'est un coin en Espagne ou en Italie, je sais plus, parce que le mec aimait bien cet endroit-là quand il l'a nommé. Enfin voilà, ça n'a aucun rapport avec la faille en elle-même. Je sais plus le numéro de la CVE par contre, mais si vous tapez Folina, vous allez trouver. Donc en fait, la vraie faille, le vrai truc, c'est l'outil diagnostic Microsoft, donc MSDT, qui en fait permet d'exécuter des scripts PowerShell. Donc on peut injecter en fait des scripts quand on appelle cet outil-là. Et en fait, il est appelable via un système d'URL. En fait, c'est un truc un peu bizarre de Microsoft. C'est que quand vous appelez une URL, une adresse sous Windows, en fait, il y a, vous savez, le HTTP là devant. Vous connaissez sûrement aussi FTP devant. Et bien en fait, Windows a plein plein d'autres protocoles comme ça. Donc ça peut être plein de protocoles, de points slash slash, une adresse. Et donc l'outil de diagnostic peut être aussi appelé comme une URL. Donc je sais plus c'est quoi le début, je crois que c'est ms-dt, un truc comme ça, deux points slash slash, donc qui est une URL, et donc on peut l'appeler comme ça. Donc l'outil diagnostic a une faille qui permet d'injecter des commandes, il est appelable comme une URL, et Word peut inclure dans ses templates un appel d'URL. voyez, hop, on met toutes les briques bout à bout. Ça fait que vous avez un Word, que quand vous ouvrez le Word, il appelle l'URL, il appelle l'outil diagnostic, il exécute la commande. Et paf, ça fait des chocs à pic, et ou plutôt dans le terme technique, ça fait une RCE, donc une Remote Command Execution. On peut exécuter des commandes à distance sur le serveur de quelqu'un. Donc, alors à distance, à partir du moment où il ouvre le document. Hein. Donc là, le POC, enfin ce qu'on appelle le Proof of Concept, le prototype, si vous voulez, d'attaque dans cette faille-là, utilise un Word, mais en fait, peu importe, c'est pas le Word vraiment qui est la faille à part entière, c'est le fait que l'outil diagnostique est appelable comme une URL et surtout contient moyen d'injecter des commandes. Donc là, en l'occurrence, c'est du PowerShell. Et donc voilà, cette faille Folina, qui est une faille plutôt grave quand même, hein, une RCE, c'est pas rien, c'est une 0D dans le sens où il n'y a aucun patch actuellement officiel pour la corriger. Alors, là où elle est aussi inquiétante, c'est qu'il y a sûrement d'autres choses derrière, c'est-à-dire que c'est pas parce que là on a vu un cas avec Word et l'outil diagnostique qu'il n'y en a pas d'autres formes un peu de mutation, si vous voulez, qui feront un peu la même chose. J'ai vu déjà qu'il y avait d'autres types d'exploits qui utilisaient par exemple non pas un Word mais un RTF. Donc, c'est un document aussi, mais c'est le format de texte de Windows, en fait, c'est le Rich Text File, RTF, qui est encore plus vicieux, c'est-à-dire que ce document-là, vous n'avez même pas besoin de l'ouvrir. C'est un document malveillant. Il suffit de l'avoir en fait dans votre de le voir listé dans votre navigateur en fait, parce que ça va exploiter le système de preview que l'explorateur a, et donc en fait il va afficher la preview du document, l'aperçu du document, et donc en affichant l'aperçu du document, il va déjà avoir chargé le script malveillant, et pouf pif paf, voilà, c'est parti. Donc voilà, on a une espèce de faille à deux étages comme ça qui est assez chaud. Qui a un petit peu énervé tout le monde, enfin énervé non, mais emballé un peu la sphère cyber, et donc forcément tout le monde est sur le pied de guerre pour résoudre et aussi pour voir les différentes variantes, parce que c'est pareil, là actuellement c'est l'outil de diagnostic qui est utilisé comme deuxième étage, hein, pour exécuter les commandes. Mais voilà, il y a des gens qui se disent, il n'y a peut-être pas que ça. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres programmes Windows que l'on peut appeler comme des URL, hein, de la même manière que dans cette histoire de Word. Et donc, potentiellement, on ne sait pas, ils ont peut-être des failles aussi, quoi. Donc, il y a tout un chaînon comme ça qu'il faut regarder. Alors, en termes de détection, c'est a priori pas détecté pour l'instant. Parce que c'est pas des outils supplémentaires, c'est-à-dire que votre antivirus, il va chercher si vous avez un nouveau programme, un virus installé sur votre machine. Donc il y a quelques signatures qui commencent à sortir de Word malveillant, voilà, que l'antivirus pour détecter. Mais par exemple, l'outil de diagnostic, il va pas vous dire c'est un virus. Il est autorisé, l'outil de diagnostic. Et celui-là n'a pas été encore patché. Donc voilà, on a un petit défaut là où on n'a pas encore des antivirus qui sont assez au point. Enfin, en termes de diagnostic, etc. Et les patchs sont pas sortis. Merci pour le sub, Will. Alors, je vais dire tous tes chiffres quand même. Will 310031. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit plein de chiffres, j'ai pas dit les chiffres. D'où l'intérêt de désactiver les previews. Bah ouais, entre autres, c'est vrai que là, c'est pas tip top. Donc. On va bien voir comment ça se... C'est un peu comme la faille Log4j qu'on avait vu à une époque, dans le sens où c'est vraiment plus une famille de failles que vraiment une faille unique. Quoi. Donc il va y avoir un certain nombre d'éléments qui vont évoluer. Pour le moment, alors là je vous parle des patchs officiels, mais non officiels, il y a quand même certaines solutions. Donc il y a par exemple désactiver cette histoire d'URL, là où on ne peut plus appeler l'outil de diagnostic via une URL. Il y a différentes solutions qui tournent sur Internet, hein, à base de clés de registre qu'on peut enlever, qu'on peut modifier, etc. Donc, je ne vous en donne pas une officielle là pour l'instant, mais il y en a. Alors, il faut regarder un petit peu. Et sachant que le problème aussi, c'est que Windows... tiens, il y a du loot qui traîne en avant droite.
Ouais, c'est ce que j'ai acheté,
c'est le galion. Il est juste avant droite. Donc du coup, il y a... voilà, il y a un certain nombre de précautions à prendre, on va dire, d'utiliser Power d'ici là, mais c'est peut-être un peu beaucoup. Mais voilà, elle est en cours de résolution, soyez prudents. Là où c'est un peu vicieux, c'est que, notamment par le, sur le côté Word, là, c'est pas un truc qui vous demande des macros ou des choses comme ça. Ça, vraiment, ça exploite le système de template, donc qui s'ouvre, qui est forcément ouvert quand vous ouvrez Word. Donc c'est, ça passe un peu au travers de tous les... de tous les mécaniques que les antivirus connaissent bien et protègent, quoi. Pour l'instant, ça passe un peu à côté. Merci, Talvi Kissa, pour tes 8 mois. Ça fait 8 mois que t'es abonné. Wow. Merci beaucoup à toi. C'est très cool. Comment puis-je avoir le lien du Discord? Eh bien, tu vas taper tout simplement point d'exclamation Discord et devant tes yeux ébahis, le lien va apparaître. C'est la magie de la technologie.
Live.
C'est beau, hein. Il m'a fallu des années pour arriver à programmer le robot, mais maintenant ça marche. Je ne suis pas le gars qui est le plus actif sur les évolutions de la chaîne. Hein. Typiquement, je viens juste de mettre les émotes, c'est pour vous dire. Mais ça avance tranquillement. Donc voilà, Folina, grosse faille dont on a pas mal parlé et qui fera sûrement parler encore quelques temps. Est-ce que j'ai tout réuni? Non, il y en a encore là-bas. En espérant bah voilà que les gens ne se fassent pas emmerder par ça.
Ouh, on avait une intro, j'ai pas vu.
Il ouais, y a eu de l'orage dessus.
Juste les bails, je pense.
Alors merci, première fois sur Twitch, après de nombreux replays, et eh bien merci à toi Black Snow CTF. Bienvenue à toi dans le live en direct, une vraie live. Attends, je vais me mettre là, je vais ramasser.
Attends, merci. J'ai trouvé un astuce pour le drop quand je suis seul.
Ah oui, tu les lâches comme ça, oui, d'accord.
Oui.
Je vais les ramasser, première fois. On attend toujours les badges de sub un jour. Merde, il faut faire des badges de sub. Oh là, mais les gars, j'ai à peine de mettre les emojis. Vous croyez pas que je vais faire les badges de sub tout de suite? Non, mais après, il y a un problème principal, hein, majeur, c'est que je n'ai aucun talent artistique. Donc, quand je vous mets des emojis, des choses comme ça, c'est parce que je suis entouré de personnes formidables qui savent le faire à ma place. Mais voilà, je vais pas les harceler non plus pour me faire faire des trucs, donc... Quand l'occasion se présente, là par exemple les émotes, typiquement c'est Talvi Kissa qui les a fait. Et voilà, et pour les badges de sub, payez-la, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oh merde, j'ai pris la foudre.
Tu veux, je peux t'en faire des badges. Si tu as juste une idée, je peux t'en faire.
Tu as un talent artistique?
Oui.
Écoute, bref,
tu
veux, hein, mais je ne suis pas encore une grosse chaîne où tout le monde fait des fanarts et tout machin. Donc je remercie par contre Talvi Kissa qui a fait déjà tous les émotes que vous avez actuellement donc sur le Discord. Et puis d'autres choses mais qu'on voit plus malheureusement, c'est quand il y a plein de subs sur le Discord, il y a une espèce de bannière qui apparaît. Et du coup bah c'est elle qui l'a fait aussi.
Un deuxième galion, cool.
Bah, écoute, si on a autant besoin de se battre que sur le premier, c'est cool. Je crois que j'ai tout
réparé.
Mais c'est
la tempête. Ouais.
Ceci étant que j'ai un taf maintenant, j'ai plus tant de temps pour faire du graphisme. Bah oui, ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de lézard. Du coup. Donc. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous raconter? J'ai d'autres sujets. Alors, Microsoft 365. On peut payer en cookies. Vous faites comme vous voulez, hein. Je dessine des bonhommes sans bras. Alors moi aussi, Chris, moi je suis un grand expert du bonhomme bâton. En fait, j'ai un dessin, je fais toujours le même quand on me demande de dessiner. C'est un espèce de bonhomme bâton avec une grosse tête. Ceux qui me connaissent depuis quelques temps, je crois que j'ai déjà fait le coup à Doline ou à Talvi Kissa, mais c'est une espèce de bonhomme bâton avec une grosse tête toute déformée, des grandes oreilles. Il a l'air débile, enfin bon, c'est mon dessin. C'est mon dessin signature, si vous voulez. Mais voilà, ça correspond pas à l'identité de la chaîne, forcément. Alors que Talvi Kissa a déjà fait des artworks super chouettes, hein. À l'époque, quand on était parti sur Cacolac, là, et qu'on voulait se faire sponsoriser un peu, Talvi Kissa avait fait une version, tu sais, un peu chibi de moi, qui était géniale. Franchement, moi, j'aimais beaucoup. Après, voilà, on n'a pas été sponsorisé par Cacolac, c'est dommage, vu les efforts fournis, mais c'était, c'était trop chouette. Or donc, sujet suivant. Ça, c'est un sujet que j'ai vu passer en, sur Twitter, hein, comme souvent, tu me diras, mais qui concerne cette fois Office 365. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Office? Alors, bon, c'est Microsoft, hein, donc ils font toujours des conneries, mais là, en l'occurrence, ils ont sorti une bien bonne qui était sous couvert de... Enfin, ce qui m'a fait rire, c'est sous couvert de la sécurité, en fait. Donc, ils ont dit, on a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui permet de scanner les mails des employés, hein, parce qu'Office 365, il y a Outlook hein, dedans, il y a Live, hein, donc toutes les entreprises qui sont sous Office 365 ont leur courrier dessus, en fait. Et donc, c'est une fonctionnalité qui scanne les mails. Déjà, dans le cadre du boulot, hein, c'est des boîtes c'est des boîtes privées. Enfin, non, du coup, c'est des boîtes professionnelles. Enfin, bon, scanne les mails. Et qui essaie de détecter, via une intelligence artificielle, j'imagine, que l'employé ne cherche pas à démissionner. Alors, comment ils font ça? Ça reste à étudier de plus près. J'ai pas les détails exactement du truc. Mais voilà, l'idée, c'est de dire, on va regarder si un employé démissionne ou pas. Que je pilote, du coup.
En fait, si tu peux même te mettre sur l'île. En fait, il faut juste partir sur une île et ne pas bouger. Il a mettre son temps pour tourner.
Oui. Hop. Aïe. Et donc voilà, l'idée c'est que il essaie de détecter si l'employé va démissionner ou pas parce que. Alors pourquoi hein, parce qu'on va me dire c'est pas de la sécu ça. Mais en fait si. Il se trouve que. C'est pas de la sécu effectivement, mais tel que c'est présenté par Microsoft, c'est pour prévenir un risque de sécurité si l'employé part justement. Un employé qui part. Il faut revoir ses comptes, il faut changer ses mots de passe, il faut révoquer ses autorisations d'accès, etc. Et donc l'argument de Microsoft, c'est de dire, on va le détecter en amont, et du coup, on va identifier à l'avance qu'il va partir, et donc prendre les mesures de sécurité à l'avance, voyez, dans l'idée. Ce qui, forcément, a un petit peu fait réagir les gens quand même, hein, globalement. Ça n'a pas exactement perçu comme quelque chose de très positif. Hein. Les mots Big Brother ont été lâchés, hein, évidemment. Après, est-ce que c'est vraiment un avantage sécurité? Là, franchement, ça sent la grosse excuse quand même. Hein, globalement, on est quand même sur une fonctionnalité qui, d'un point de vue sécurité, n'apportera pas grand-chose. Sinon, surveiller les gens, quoi, hein, voilà, dans l'idée, mais je mets absolument tout à côté, c'est magnifique. Je suis le tireur des enfers. Et puis alors, les petits feux d'artifice qui volent sur tous les sens, ça aide pas. Ouais, c'est bon. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Peut-être selon son activité, genre quand j'étais entre deux emplois, je faisais mon CV au table. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est. J'imagine qu'il y a une intelligence artificielle. Alors, bon, c'est toujours un peu exagéré de dire ça, mais enfin, bon, voilà. Une fonctionnalité qui détecte effectivement un certain nombre de mots-clés. Et. J'en ai marre. C'est même pas. J'allais me dire. À la limite, ça aurait été de la prévention de suicide, vous voyez. Peut-être ça aurait été plus légitime, et encore. Bon, après, encore une fois, c'est pas des courriers privés, c'est des courriers boulot. Donc, bon, qu'une entreprise surveille ses courriers boulot, ça fait jaser, mais ça, il me semble que dans la loi, c'est autorisé. Plus ou moins. Mais voilà, que ça aurait été pour le bien-être des gens, je dis pas, mais pour détecter qu'ils vont démissionner, enfin, qu'ils veulent partir, en fait, tout de suite, c'est plus border, quoi. On n'est pas sur le bien-être des gens. L'excuse de la sécurité, elle est un peu facile, quoi. Donc bon, j'avais envie de vous soumettre ce point-là. Je sais pas si ça vous fait réagir ou pas, ou si vous trouvez ça normal de la part d'une entreprise de surveiller à ce point-là ses collaborateurs. Détecter, c'est la première étape avant de couler des gens dans du béton. Oui, c'est une façon de voir les choses, effectivement. Il a coulé? On ne
Non,
voit plus?
il est parti.
Il est
Il
parti?
est
Ah merde.
reparti. Oui, bon, c'est pas grave.
Bon. Là, pour le coup, j'ai jamais fait de conneries avec la messagerie interne. Bah après, ah oui, scanner la messagerie. C'est vrai que la messagerie interne est un autre problématique. Après, là, en l'occurrence, sur Office 365, vous avez les deux. Vous avez donc la partie Outlook et vous avez la partie Teams, effectivement. Teams fait aussi partie de toute la galaxie Office 365 et donc la messagerie interne Teams est inclue dedans. Donc si votre boîte elle est full Office 365 du sol au plafond, eh bah oui, la messagerie est scannée aussi, j'imagine. Je sais pas exactement comment fonctionne la fonctionnalité. Hein. Je l'ai pas vue en œuvre. Je sais pas si elle est déjà en place ou si c'est une future fonctionnalité. Mais il y a un galion là-bas. Oui, bah c'est le nôtre. D'accord. Nous tourne le dos. Et donc, du coup, je ne sais pas exactement à quel point ils l'ont déployé, mais a priori, ça doit toucher tout ce qui est Office 365. Ça dépend si l'entreprise est dans un domaine délicat. Oui et non. C'est-à-dire que enfin, quand tu veux démissionner, je veux dire, tu préviens ta boîte. À un moment donné, ils vont être au courant. À un moment donné, tu ne seras plus là. Ils vont être au courant. Donc, j'espère quand même qu'à un moment donné, tu vas pas. De toute façon, tu peux pas partir du jour au lendemain. Donc, forcément, tu dois leur dire officiellement, je m'en vais. Sinon, c'est autre chose. Et à ce moment-là, ça me paraît effectivement logique qu'on revoie la sécurité des choses, etc. Mais s'y prendre en amont comme ça, en mode un peu pré-crime, hein, vous savez, à la Minority Report. Pour moi, c'est nettement plus border quand même. Hein. On est quand même dans un quelque chose qui est beaucoup plus malsain, en tout cas. Après, oui, qu'une entreprise ait envie de se préparer à la démission de quelqu'un, soit, mais pas comme ça. Enfin, je sais pas. Si quelqu'un a envie de partir, normalement, un bon manager, il le sait. Enfin, alors le gars est acteur studio puissance 1000, mais quelqu'un qui est pas bien dans une boîte, normalement, son manager, il est un peu au courant. Ou alors c'est que son manager, il doit pas manager grand-chose, quoi. Hein. Donc, je sais pas trop. Moi, personnellement, je trouve pas ça correct. Voilà, parce que bah, je suis contre le fichage, hein, d'une manière générale. Donc, voilà, c'est pas exactement une surprise. Hein.
Il est bugué.
Ouais, il est bugué. Il est mort, mais voilà. C'est juste on a pas eu de l'animation. Non, c'est pas normal, mais la surveillance s'est accrue avec le télétravail car les employeurs n'ont pas confiance. Je connaissais des gens qui installaient des simulateurs d'activité pour ne pas être emmerdés. Pas que tu travailles pas, mais pour ne pas avoir d'alerte. Les syndicats sont en train de bouger sur le sujet. C'est vrai que la période où on a eu beaucoup de télétravail, alors d'abord, toutes les boîtes sont en train de revenir dessus en mode on veut plus du tout de télétravail. Je suppose que vous avez entendu parler de cette histoire avec Elon Musk. Qui a dit soit vous revenez au boulot, soit vous dégagez tout, je vous vire. Voilà, hein, en gros, toujours Elon Musk dans la finesse et la subtilité qu'on lui connaît. Mais c'est vrai que les entreprises reviennent de cette période du télétravail qu'elles n'ont pas du tout aimé. Hein. C'est pas une grande surprise. Hein. Les managers aiment pas se rendre compte qu'en fait ils servent à rien, hein, globalement, parce que c'est ça le télétravail. Hein. Le télétravail, c'est t'es autonome chez toi. Ton manager, il te fait plus chier qu'autre chose, il ne sert à rien concrètement, sauf à te filer 2-3 missions, mais enfin, t'es capable de les prendre tout seul, quoi, comme un grand. Donc, on est quand on est dans le full télétravail, moi, je suis en home office, donc j'ai un peu ce sentiment-là aussi, mais je le voyais déjà avant, hein, en télétravail, c'est que, de fait, les encadrants sont moins utiles. Quand t'es en télétravail, l'encadrement d'une entreprise classique, c'est trop. Il y en a trop, quoi. C'est pas la peine d'avoir autant d'encadrement. Donc forcément, ça a dû les mettre un peu en porte-à-faux, ils n'ont pas aimé ça, et voilà. Mais qu'en face, on mette de la surveillance, j'ai envie de dire, sur le boulot, pourquoi pas, mais là, on est quand même sur. Je sais pas. Moi, j'aime pas non plus les trackers d'activité. Hein, j'en ai pas. Dans ma boîte, ils font pas ça, c'est très bien. Ils le feraient, je pense que je resterai pas dans la boîte, voilà, on va dire ça comme ça. Mais moi, je pointe des temps, vous voyez, quand je bosse sur tel sujet, je bosse sur tel sujet, je pointe des temps. Donc je m'auto, comment dire, pas surveille, mais je m'auto-contrôle, quoi. Et mon manager vérifie juste que je raconte pas de la merde, quoi, que les clients ont bien été servis et que tout va bien, voilà. C'est son boulot de manager. Bon, à ce niveau-là, ma boîte est plutôt cool, mais je sais que c'est pas pareil partout. Effectivement, il y a des boîtes qui ont été beaucoup plus strictes là-dessus et qui n'ont pas du tout aimé le, voilà, pas du tout intégré le concept du télétravail. C'est une catastrophe. Merci pour le follow, Retorbutor. Et donc, voilà. Nouvelle fonctionnalité d'Office 365 pour scanner. Alors, le problème aussi après, derrière, c'est qu'on dit ça pour commencer. Hein, c'est je surveille les démissions pour des raisons de sécurité, voilà, entre guillemets. Mais où ça s'arrête? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ouvert la boîte de Pandore en mode je peux scanner les mails et je peux appliquer une AI dessus, eh ben voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit, et on peut se faire plaisir à détecter n'importe quoi. Genre qui couchait avec qui ou je sais pas fraude en tout genre. Enfin voilà. Après ça peut être très large. Le problème dans tout ça, bon d'une part c'est quand même la détection parce qu'il y a des, enfin je veux dire t'as le droit de démissionner de ta boîte, hein, c'est pas interdit, donc c'est pas illégal de vouloir démissionner. Donc voilà, d'une chose il y a les vrais sujets qui n'ont pas besoin d'être contrôlés, et de l'autre il va y avoir aussi tout l'aspect bien sûr des faux positifs. Et si tu déclenches toute une procédure dans une grosse boîte en général qui justement connaît pas bien ses employés, les RH ils ont soudain des alertes en disant ah là un tel a l'air de pas aller bien, va peut-être se suicider ou démissionner, etc. T'as tous les RH qui vont lui tomber dessus avec tout un tas de procédures qui varient de on le vire avant pour pas être emmerdé jusqu'à on l'accompagne dans les meilleures boîtes, mais bon voilà. Ça, c'est le cas positif, j'y crois moyen, hein. Je suis moins dans cette optique-là. Donc forcément, il va y avoir des problèmes. Enfin, ça va générer des incidents. C'est pas le genre de choses. On n'a pas une techno suffisamment parfaite pour que ça marche, quoi. Forcément, il va y avoir des problèmes. C'est la nouvelle lanterne, ça, c'est ça?
Oui, c'est ça. Elle a un effet un petit peu bizarre. Avec
D'accord.
une musique quand on la tient.
Elle fait de la musique quand on la tient.
Celle du
J'entends pas.
passeur, je crois. Je pense
Moi
que
j'entends.
c'est la. Le teneur. Pardon. Le teneur là, il entend, je crois.
Non mais j'ai prévu d'aller le faire, mais pour l'instant, j'entends pas la musique du coup, mais c'est pas grave. Voilà. Donc pour info, bah, si jamais ils font ça chez vous, bah si vous êtes en 365 et que c'est activé, bah vous le saurez. Ne faites pas vos lettres de démission sur le mail de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il faut... Il faut pas oublier qu'une entreprise n'a pas le droit d'intervenir sur ta décision de démissionner. Bah, c'est ça. C'est pas interdit. Pas le droit de faire pression, de menacer ou d'influencer. Ouais. Alors ça, c'est un peu comme tout un tas de choses que l'entreprise n'a pas le droit de faire, mais qu'elle fait quand même. Hein. C'est comme la longue liste des questions qui sont interdites en entretien d'embauche que toutes les boîtes te posent. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Tac, tac, j'espère que le législateur interviendra. Ouais, alors ça, c'est pareil. Hein. On attend de voir. En tout cas, pas les législateurs qu'on a actuellement, hein, parce que c'est tout à fait dans l'optique Startup Nation, cet aspect-là. Et puis bon, Microsoft, ils aiment bien. Donc, honnêtement, c'est pas avec l'orientation actuelle du gouvernement, je pense qu'on aura du travail là-dessus. Enfin, des avancées à ce niveau-là. Peut-être côté européen, avec l'histoire des RGPD, mais bon, dans le cadre de. D'une entreprise privée, c'est quand même un peu particulier, donc je ne sais pas. Pour faire l'avocat du diable, les entreprises ne peuvent pas non plus faire confiance les yeux fermés et données sensibles, etc. Bah, oui et non, c'est-à-dire que quand tu embauches quelqu'un, normalement c'est un contrat. En fait, c'est ça un peu qui a été oublié, c'est que une entreprise et un employé, un employeur et un employé, normalement c'est un contrat mutuel, hein, qui va dans deux sens. Et où les deux sont censés avoir un même niveau de prérogative. Alors je sais bien que ça s'écroule de jour en jour, hein, mais normalement, il faut l'employeur doit respecter l'employé, l'employé doit respecter l'employeur. Donc aucun ne doit mentir à l'autre, tous les deux doivent faire confiance à l'autre. C'est le principe du contrat, quoi. Hein, sinon, il est brisé et puis t'es pas employé. Alors, je sais bien que dans la pratique, là, c'est très joli, c'est très utopique. Dans la pratique, c'est pas ça. Mais voilà, en théorie, la loi dit que tout le monde doit se respecter et se faire confiance. Voilà. Reste à voir, quoi. Alors, perso, j'étais sur un logiciel d'appel quand j'étais téléconseiller. Les sup avaient accès à toute notre activité, donc tu faisais rien, ça se voyait du. Bah, c'est vrai que là-dessus, Pardon, sur les centrales d'appel, de toute façon, il y a des mesures et tout. Moi, j'ai la chance d'avoir. Mon boulot, c'est chef de projet, quoi, concrètement. Enfin, c'est consultant, le titre exact. Mais c'est de la chefferie de projet. Donc, le timing de mes projets, on va dire, il y a une date de fin, mais c'est tout, quoi. Après, c'est plus si je mets trois plombes, le client va gueuler, quoi. Mais dans l'idée, j'ai pas effectivement un horaire à respecter, à faire tant de choses par jour. Ce qui n'est pas le cas suivant les métiers que vous faites. Si vous avez effectivement un centre d'appel ou un nombre de dossiers à traiter par jour, bon bah là, il y a une histoire de productivité. Donc ça peut se comprendre, on va dire, un peu plus parce que c'est le cœur de métier et que bah il faut effectivement il faut mesurer la productivité pour. Alors, c'est pas tellement un contrôle, c'est normalement, c'est bien fait, hein, c'est pour faire un tableau de bord. Et qu'après, il y a une notion d'amélioration continue. C'est le même principe en usine, hein. Vous devez faire sortir tant de pièces. Bon, bah, vous avez un tableau de bord qui dit, il y en a tant de sorties, il y en a tant de non conformes. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, hein. Donc, forcément, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on fait, il faut mesurer. Si tu mesures pas, bah, tu peux pas l'améliorer. C'est une règle de base, hein, de tout boulot, d'ailleurs. Tu ne peux améliorer que ce que tu mesures. Voilà. Si vous l'avez jamais entendu, ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais petit. Enfin, petit. En école, en tout cas. C'est pas l'école qui me l'a appris, mais je l'ai appris en cours de formation de moi-même, en autodidacte. Mais en gros, tu n'améliores que ce que tu mesures. Si tu peux pas le mesurer, tu peux pas l'améliorer parce que bah, t'as aucun point de contrôle, en fait. C'est le principe de la qualité. Parce qu'en fait, j'ai commencé ma carrière, pour info, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait du qualiticien. J'ai fait des audits de qualité ISO 9001. Et donc, bah, j'en ai gardé une couche comme ça de feeling sur la qualité. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau sinon? L'entreprise doit mettre en place ce qu'il faut pour éviter la fuite. Mais si elle ne fait pas confiance, il faut mieux de barrer. Bah, c'est ça. Enfin, je veux dire, si tu es dans un climat où tout le monde se suspicionne, se suspecte plutôt, voilà. Bah, c'est déjà, le climat est pourri. Hein. Ça ne doit pas être agréable de bosser dedans, quoi. Mais bon, pensez à Amazon. Hein. Typiquement. Amazon a eu le même problème parce que on en avait parlé il y a quelques semaines déjà dans un Pirate Talk où leur messagerie interne avait été coupée parce qu'ils s'en servaient pour faire des réunions syndicales. Et comme Amazon ne veut pas qu'ils fassent de syndicats, eh ben, ils avaient coupé la messagerie interne en fait, comme des petits salauds. Bon, bah, voilà. C'est un peu la même idée, hein, quelque part, ça rejoint les mêmes choses. Pourtant, les périodes de télétravail, j'ai tellement eu de demandes de patron. Je voulais savoir à quelle heure son fils s'est connecté le matin. C'est ça, il y a des boîtes où c'est comme ça. Moi, je fuis ce genre de boîte comme la peste. Puis, c'est pas le type de mon métier, donc je peux me le permettre, quoi. Donc, tant mieux pour moi. Mais je sais que dans d'autres boîtes, effectivement, c'est malheureusement un peu plus ou moins obligé, quoi. Alors, anecdote de Unica, anecdote. La NSA avait une intelligence artificielle pour scanner les mails Gmail, d'accord, potentiellement dangereux. Contexte de terrorisme, bah c'est aussi Echelon, hein, on avait ça en Europe, hein. Je sais pas si on l'a pas toujours d'ailleurs. Contexte du terrorisme, tout est relatif. Après, avec un fonctionnement par mots-clés, oui. C'est ça en fait. Souvent on dit intelligence artificielle, mais grosso modo c'est j'ai vu des mots, quoi. Hein. C'est pas vraiment intelligent. Hein. C'est très artificiel, mais c'est pas très intelligent. Si un mot-clé était détecté, alors il était relu par un agent. Parmi les mots-clés, il y avait le terme gâteau jaune, qui est un jargon pour parler d'uranium. Ah, d'accord, je ne le savais pas. Discrètement, pour parler d'armes nucléaires. Donc, à une époque, si tu parlais de gâteau jaune, tu pouvais te faire relire par un agent de la NSA. Vive Edward Snowden, exactement. Mais il y en avait d'autres. Je me souviens de. Alors, quand j'étais jeune, hein, les années 90, donc c'était Echelon, on en parlait pas mal. Et je. Alors. Je n'ai jamais trop su si c'était une vraie liste ou pas, mais il y avait une liste qui était sortie en fait de mots-clés. Et un peu comme j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, un tweet où je mettais tous les mots-clés qui font réagir les bots, et bah à l'époque on s'était amusé à faire des mails qui faisaient où tu mettais tous les mots-clés, tu sais, jetons, pour que bah, ça fasse réagir, quoi. Bon, on n'a jamais été visité par la police ou quoi que ce soit, donc j'imagine que l'humain derrière a vu que c'était de la grosse connerie. Mais l'idée c'était, voilà, tu mettais tous les mots-clés à la con qui faisaient réagir, quoi. Merci pour ton Prime, Black Snow CTF. Merci à toi. C'est un gros grep. C'est ça, c'est un gros grep. Bon, en tout cas, je vois que ça vous divise, mine de rien, quand même. Il y en a qui sont pas forcément contre, hein, je vois ça. Moi, je sais que personnellement, je suis extrêmement contre. Hein. J'exècre, mais enfin c'est maladif quoi. J'ai une phobie. Enfin c'est pas une phobie, c'est une détestation profonde de tout ce qui est surveillance. Donc même quand la boîte, enfin j'étais dans des boîtes par exemple où t'avais des systèmes, enfin assez classiques, hein, qui interdisent les sites internet d'une liste. Vous voyez, ça blacklist certains sites internet, comme ça ton poste de travail peut pas aller n'importe où sur internet. J'ai eu ça une fois. J'ai détesté ça, j'ai contourné ça et je suis parti de la boîte au bout du compte. Et je supportais pas ça, alors qu'au final, ça me gênait pas moi. Enfin, je veux dire, c'était des sites à la con. Enfin, si, il y avait quelques sites de sécurité. Souvent, ils sont un peu mélangés entre les sites de sécurité et les sites d'attaquants. Donc, des fois, ça tombe dans les mauvaises blacklists. Mais globalement, ça me gênait pas spécialement dans mon travail. Mais j'ai passé un temps phénoménal à essayer de contourner le système, juste pour contourner le système. Je ne supporte pas ça. Donc tout ce qui est surveillance, contrôle, je déteste ça. Alors moi, forcément, voilà, le pointage, l'idée même de pointer mes temps, c'est le meilleur moyen de ne plus me faire travailler correctement, en fait. Le simple fait de me dire, je dois passer X heures sur ça, puis X heures sur ça, et de le pointer, et donc d'avoir une surveillance, même si c'est moi qui l'auto-pointe, vous voyez, mais d'avoir des temps précis de combien de temps j'ai passé, je ne supporte pas ça et je suis ça, vraiment ça me bloque dans mon travail quoi. Alors qu'à l'inverse, je vais avoir là actuellement, je l'ai dit, je pointe des temps, mais c'est des grosses masses en fait. C'est genre la demi-journée j'ai fait ça, enfin j'ai travaillé sur tel sujet, là la journée entière je travaille sur tel sujet, je descends pas en dessous de la demi-journée comme intervalle de pointage quoi. Bon, c'est juste pour donner une appréciation de sur quel sujet je travaille en ce moment pour ma hiérarchie, pour mon manager, pour qu'il puisse attribuer des sujets, quoi. Voir si j'ai assez de quoi m'occuper ou s'il me faut des nouveaux clients, des choses comme ça. Bon, voilà. Ça, je peux comprendre. Mais aller jusqu'au pointage, le contrôle et tout, vraiment, j'ai une. Ça me file les boutons, quoi. C'est le meilleur moyen que j'arrête de bosser, quoi.
Alors, je suis juste parti prendre une chaloupe sur l'île et essayer de me faire la stopper sur l'autre île.
Tu veux que je te ramène?
Mais je vais laisser le. Non, je sais, c'est le note sur Reaper Adapt pour peut-être vendre, évidemment. Enfin, éventuellement, plutôt.
Alors, je vais au Reaper, ok.
Et j'ai juste laissé un MSR 3. J'ai mis sur la table de quête.
Ah, j'arrive.
C'est le plus important, je crois, à vendre.
Ah oui, c'est un émissaire, d'accord, ok.
Voilà, c'est pour ça.
Je fais un peu de jeu, quand même, sinon, le pauvre Zarax, il a pas de chance. Salaire minimum, travail minimum, oh, ça c'est. Je plussois cette règle, tout à fait, LKF. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Salaire minimum, travail minimum. Je suis consultant, je sais ce que je vaux. Et si on paye moins que ce que je vaux, je travaille moins que ce que je vaux. Tout simplement. Parce que je peux me le permettre, attention. Hein. Je comprends bien que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ce choix-là. Je vais pas non plus. J'en ai vu tellement des employés qui étaient de mauvaise foi et voulaient surtout en faire le moins. Par exemple, quand je travaillais dans un supermarché, c'était pas aussi simple. Ça dépend vraiment du métier. Je peux comprendre que. Je veux dire, j'ai un boulot de bureau. J'ai pas un boulot de à la chaîne ou. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes contextes, les mêmes circonstances. Donc là-dessus. Et à l'inverse, je veux dire, quand mon patron il me sort une petite prime de derrière les fagots ou une augmente sympa. Je bosse plus aussi, hein. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça, quoi. Là. Bon, alors, on va faire un autre sujet, parce que si on va passer tout le live sur celui-là. Alors, oui, en parlant de surveillance, tombe bien, enchaînement. Vous avez vu ça? On enchaîne les sujets. Tiens, j'ai tapé dans quelque chose. Bon. Ok, j'ai cassé le bateau, tout va bien. Donc oui, je voulais vous parler d'un autre sujet, aussi sur la surveillance, qui est en fait une enquête de Human Rights Watch. Je ne sais pas si elle a un nom en français. C'est je suppose que c'est une association, la fondation qui s'occupe de, qui surveille les droits de l'homme dans le monde. Donc je ne sais pas comment il s'appelle en français. En anglais, c'est Human Rights Watch. Donc droits de l'homme, surveillante des droits de l'homme, voilà. Surveillent du coup les droits de l'homme et on fait une enquête par rapport à justement cette période de Covid où on était beaucoup en télétravail et notamment ils se sont concentrés sur tout ce qu'ils appellent l'EdTech. L'EdTech, c'est tous les logiciels ou outils utilisés par l'éducation, alors éducation nationale ou éducation privée, mais l'éducation au sens large. Donc je le vends, le drapeau, ou tu veux que je mette
Oh
l'émissaire d'abord?
oui. Non, tu peux pas, on n'y a pas de souci.
Ok, je le vends. Donc l'EdTech, voilà, c'est tous les outils numériques utilisés dans l'éducation, aussi bien public que privé. Et donc ils ont analysé ça. Et globalement, ce qu'ils ont vu, ils ont identifié dans quasi-totalité des logiciels, des outils, que en fait, il y avait plein de trackers. Alors, pas des trackers particuliers, particulièrement invasifs ou quoi que ce soit, mais en fait les mêmes trackers que vous avez vous sur vos applis, sur les outils que vous avez. En fait, ce sont les mêmes. Donc ce sont, ça va être des trackers Google, ça va être des trackers Microsoft, ça va être des trackers un peu tout ce que tu veux, mais qui sont, enfin le problème de ces trackers-là, c'est que du coup sont sur des logiciels où des enfants utilisent ces logiciels. Et donc ce sont des trackers qui traquent des enfants. Et comme tous les autres trackers de n'importe quel logiciel du monde, ils sont évidemment revendus à des fins publicitaires. Ou alors directement collecté par des organismes publicitaires. Mais donc, dans l'idée, ces trackers, ce sont les mêmes que les vôtres, et du coup, surveillent les enfants. Donc, ce que pointait du doigt Human Rights Watch, c'est que bah, du coup, les enfants étaient offerts finalement aux publicitaires durant toute cette période de Covid, où bah, ils. Ouais, j'ai eu un succès là. T'as tué quelqu'un?
Ça peut aussi plus faire ça.
C'est marqué, vous avez tué un autre joueur émissaire. Et donc du coup, voilà, les enfants sont traqués au même titre que les adultes. Et ce que donc soulève cette fondation, c'est que bah normalement les enfants ils devraient pas. Alors, je sais pas s'il y a une loi particulière. Hein, si... Ça, j'ai pas forcément bien noté ce point-là dans l'article, mais dans l'idée, normalement, les enfants doivent être un peu en dehors de ce système-là, et on ne doit finalement traquer que les adultes, même si bon, les publicités pour les jouets, ça existe, hein, et donc j'imagine que les publicitaires ont aussi déployé des tas de moyens pour traquer les enfants, quoi. Il y a des tas de jouets vendus dans le commerce qui remonte des informations pareil d'usage et d'habitude à un serveur central, hein, tout ce qui est. Je me souviens, il y avait une histoire avec VTech, je crois, à une époque où ça remontait des infos que ça aurait pas dû. Où il y avait aussi, alors je sais plus c'était quelle marque, mais il y avait un espèce d'ours parlant, vous voyez, un genre de truc comme ça connecté qui en fait enregistrait les conversations. C'est un peu de la merde, quoi. Donc, c'est un peu de la même manière que votre truc Google, assistant Google ou Alexa vous écoute en permanence pour savoir quand est-ce que vous lui parlez. Donc il est obligé de tout savoir en permanence. Enfin, il est obligé de toujours avoir l'oreille ouverte en tout cas. Bah, cette espèce de jouet-là était capable aussi d'écouter en permanence. Sauf que bah, ils enregistraient pas mal quand même et ça remontait au serveur centraux. Bon, ils en faisaient rien de grave, mais ils avaient quand même l'info et c'était pas dit en fait dans la notice ni rien. Donc, vous voyez, donc normalement. Tout ce genre de choses est censé être banni, sauf que bah donc Human Rights Watch a mis le doigt sur le fait que, alors je j'ai pas les chiffres en tête là, mais une grosse partie des logiciels EdTech contenait des trackers. Et donc bah vu que pendant la période Covid tout le monde s'est jeté dessus, hein, Zoom, Teams, que sais-je encore. Alors, il y avait ce qui parlait beaucoup dans l'article, c'était l'exemple qu'il donnait souvent. C'était Minecraft Éducation Édition. Il y avait un Minecraft spécial éducation, apparemment.
Oui.
Que je connais pas, j'ai jamais essayé. Bon,
En fait,
j'imagine qu'il y a.
c'était juste les étudiants pouvaient avoir accès à cette version.
D'accord.
C'est les
Bah,
étudiants pouvaient faire une demande, du coup.
alors celui-là, pour le coup, c'est un de ceux qui remonte le plus dans l'étude comme exemple. Donc il doit être bourré de trackers. Bah, Microsoft, quoi. Hein. Et donc, voilà. Donc ils ont collecté. Alors là, en l'occurrence, c'est Microsoft, mais Google n'était pas mieux. Enfin, je veux dire, ils étaient tous pareils. Alors, ils disaient bien évidemment qu'une partie des trackers était dans le cadre normal, mais il y avait des données, par exemple, des données GPS. Alors, les données GPS, est-ce que c'est normal de les avoir pour des enfants? Ça se discute. Alors, encore une fois, on rejoint un peu la conversation juste avant, hein. C'est si le prof veut contrôler que l'élève suit bien le cours, il veut peut-être mettre en place des trackers, je ne sais pas. Après, voilà, on est un peu dans la même idée que le manager qui essaie de bien encadrer. Mais voilà, du coup, il y avait plein de données collectées et elles n'étaient pas utilisées que pour le logiciel en interne. Alors, il y en avait une partie qui était utilisée quand même, hein. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'était revendu, en fait. C'est ça le problème, c'est que le fichier, après, était revendu aux publicitaires, comme c'est une pratique extrêmement courante, hein. J'ai déjà dû le dire plein de fois pendant les lives Piratalk, mais par exemple, les plaques d'immatriculation françaises, qui est un fichier de l'État, hein, que l'État manipule, et c'est l'État qui le revend régulièrement aux publicitaires, aux organismes d'assurance, etc., pour se faire un peu de beurre, dans les épinards, parce qu'il est pauvre, hein, vous savez, l'État est pauvre. Est-ce que je dois vendre tout ce qu'on a sur le bateau, en fait? Parce que
Tu peux
j'en
faire
vois quand même.
plaisir.
Ok, parce que je regarde les trucs, mais je me dis peut-être faut que je les vende, en fait.
Non, je t'en ai entendu que le navire coule, c'est pour ça.
Ah, tu as donc tué quelqu'un. D'accord.
J'ai
Tant que
pris
je
le
regardais
scalo
pas.
avec un cabaret et
Ah oui,
mon autre
d'accord.
émissaire.
Ok. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vois effectivement le mot RGPD qui a été lâché dans le chat. Je pense effectivement qu'au niveau RGPD, ça va être un peu pourri, cette histoire. Je pense pas que t'aies le droit de traquer les enfants, mais bon. Et le problème, forcément, c'est que l'éducation a énormément poussé, hein. Quand on était dans la phase, oh, tu me diras énormément, le mot était un peu fort parce que Blanquer a beaucoup vendu, mais enfin a beaucoup vanté, mais au final, il y a eu assez peu d'écoles en ligne. Mais pour le cas où ça a été mis en place. Après, ils n'ont jamais prévenu qui que ce soit des trackers, quoi. Hein. Il n'y avait pas de consentement ou quoi que ce soit à fournir. Et je crois qu'il y avait même des cas un peu plus graves où carrément, alors je ne sais pas dans quel pays. Il n'y avait pas que la France, hein. C'était pas juste la France qui était concernée. En France, d'ailleurs, globalement, dans le tableau global, si je me rappelle bien, on n'était pas les pires. Parce que justement, on a mis assez peu d'outils en place au final. Mais dans d'autres pays, ils ont été jusqu'à fournir des ordinateurs, en fait, tout installés avec tout dessus. Alors, c'était peut-être des netbooks, vous voyez, des genres de trucs. Mais du coup, full configuré tracker dans tous les sens, quoi. Donc, bah, ça pose question, en tout cas. Je sais pas si vous, ça vous pose question. J'étais particulièrement calme, ou alors c'est moi qui. Ne vous lis pas bien. Déjà, c'est pas conforme au RGPD. Ouais, ça là-dessus, on est d'accord. Fondation de contrôle des élevages humains. Il y a un peu de ça. Ouais. Le problème, c'est qu'un bon nombre de développeurs utilisent des librairies qui contiennent des trackers car elles offrent des facilités. Même si l'appli n'utilise pas les fonctionnalités de tracking. Oui, il y a ce problème-là aussi, effectivement. Il y a le fait que tu réutilises des choses qui sont déjà en place et tu t'emmerdes pas à faire dans le détail, quoi. En fait, un des trucs qui pointait du doigt énormément, c'était le fameux ID unique. Ça, je vous en ai déjà. Enfin, j'en ai pas spécialement parlé en live, mais ceux qui me suivent sur Twitter ont déjà vu passer des trucs là-dessus. Où en fait, tout votre suivi publicitaire est plus ou moins normé. Et en fait, il y a un numéro d'identifiant. Vous avez un numéro d'identifiant unique. Alors, plus ou moins unique, ça dépend des plateformes, enfin, globalement unique. En gros, vous en avez un dans les systèmes Google, vous en avez un dans les systèmes Apple, qui vous dit, c'est vous, quoi. Il n'y a pas votre nom, mais vous avez un identifiant, c'est personne d'autre, quoi. Et donc, cet identifiant-là existait aussi pour les trackers pour les enfants. Donc, même s'il n'y avait pas de données nominatives, même si dans certains cas il y en avait, mais il n'y en avait pas tout le temps, et ben, même s'il n'y avait pas du nominatif, on retrouvait quand même l'ID et du coup, on avait quand même un suivi individuel des personnes. Alors, j'avais montré sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça comment effacer ce numéro. Parce qu'on peut encore le faire sur certains appareils Android. Donc, en fait, ça l'efface pas, ça le réinitialise. Et après, vous avez une fonctionnalité qui dit je veux plus l'envoyer. En fait, je veux plus que cet identifiant-là soit communiqué. Donc, bon, c'est une demi-mesure parce qu'on peut vous identifier autrement, quoi qu'il arrive. Hein. L'ID ne fait pas tout. Mais ça évite de trop simplifier le travail des publicitaires. Quoi vraiment? Bah oui. Alors t'as jamais entendu parler de ça. Faudrait que je ressorte le tweet, mais En gros, t'as, dans tes réglages de ton. Moi, sur mon smartphone Android. Hop là, mon smartphone Android. T'as un réglage au niveau de la confidentialité, sécurité, et puis il y a un truc pub, quoi. Un truc réglage pub. Et en fait, t'as un réglage qui t'indique ton numéro d'identifiant unique et si tu l'envoies ou pas. Par défaut, évidemment, la case est cochée envoyée. Hein, donc déjà, il faut décocher la case. Et après, en fait, t'as une possibilité de redemander un nouveau numéro, quoi, en fait. Donc tu coches la case pour que ça n'envoie plus, et puis tu t'effaces ton numéro, comme ça si jamais enfin, tu le remplaces, parce que tu peux pas ne pas avoir de numéro du tout. Il y en a forcément un, mais tu peux le reset, quoi, si tu veux. En refaire un autre. Un peu comme une adresse MAC, si tu veux. Enfin voilà, tu peux comme ça reset ton truc. Donc tu interdis, pour ceux qui respectent bien le réglage, d'envoyer le numéro, et tu reset le numéro. Pour les 2-3 qui respectent pas le réglage, quoi. Donc je sais que ça existe sur Android, quasi certain ça existe sur Apple aussi. Après je sais pas où c'est, je l'ai pas en tête. Merci Intel et ses ID en dur dans les processeurs, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bon, il y a plein de façons. Hein. Même si vous aviez aucun truc en dur, je me souviens d'un site qui. Enfin, je sais plus comment s'appelait l'URL, c'était un truc du genre à quel point suis-je unique? En fait, c'était juste une URL, t'allais dessus et ça te disait le pourcentage de personnes, enfin ouais, ça, le pourcentage de population mondiale qui a les mêmes conditions que toi dans la manière dont tu es arrivé sur le site en fait. Donc, modèle de Firefox, enfin, déjà, type de navigateur utilisé, la résolution de l'écran. Le PROS, le Windows, etc. Enfin, toutes les informations que tu as normalement quand tu te connectes à un site internet, hein, du moment qu'il y a un tracker, panopticlick, et tout à fait. Merci, Exidor. En fait, ça récolte les mêmes informations que n'importe quel site qui fait un peu de tracking de ses utilisateurs. Et en fait, à partir de tout ça, il en crée un profil et il permet de te dire, bah, l'ensemble de ces conditions-là n'existe finalement que chez toi ou que chez très peu de personnes. Si en plus tu mets un truc géographique derrière, bah finalement on sait que c'est toi, quoi. Ou alors à moins que tu changes de résolution tous les jours et de navigateur tous les jours, mais dans l'idée, ton profil est quand même relativement unique, même s'il n'y a pas d'identifiant. Donc c'est pour ça que c'est un peu de la fausse. C'est pas exactement. Ça ne sauvegarde pas grand-chose de juste effacer son identifiant parce qu'en fait ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. C'est un peu plus compliqué, mais au final ils y arrivent quand même. Exodus. Bah alors, je vois que tu cites Exodus, Vini. Exodus Privacy. Ils ont participé en fait à l'enquête Human Rights Watch. C'est en partie sur leurs données que s'est appuyée l'enquête. Donc justement, ils étaient dedans pour bah justement lister les trackers, voir comment ça fonctionne et tout. Donc pour ceux qui connaissent pas Exodus Privacy, c'est un. Alors je sais pas c'est quoi leur statut juridique, mais c'est un groupe qui voilà s'occupe de tout ce qui est tracker dans les applis mobiles. Et qui donne l'info régulièrement de quels sont les trackers dans chaque appli et bah, qu'est-ce qu'ils font et à qui faut se plaindre quoi. C'est un peu leur boulot quoi.
Ah.
Ah, ils ont une caisse de livraison. C'est une asso. Ah, ouais, c'est possible. J'ai aussi vu que même de base anonymisée. Même des bases anonymisées pouvaient être utilisées. En gros, tu reprends un triplet de données et tu retrouves 80% des gens en sortie. Ouais, clairement, non, mais. Il y a une sirène là, donc j'imagine que des gars doivent pas être loin.
Bah, ils sont juste plus en fait, ceux qui ont péri.
Oui, mais la sirène est encore là, donc.
Ouais, c'est possible. Après, il était AFK, donc c'est pas difficile.
Ah ouais, d'accord. Je crois que t'étais un grand maître du PVP, mais en fait, pas du tout.
Ouais, j'ai pris ma chaloupe, je l'ai fait péter, puis j'ai vu qu'il était AFK.
Tu l'as complètement AFKT. Oh là là, c'est moche. Du coup, je sais pas où il est, mais il est pas loin, parce que sa sirène est là.
Pas possible.
Attendre sur le bateau. Je ne retrouve plus le lien de l'étude de Human Rights Watch? Ah non, anonymisé. Oui, bah c'est possible. Après, ça me choque pas, après j'ai pas le lien de l'étude comme ça en tête non plus, mais ça m'étonne pas du tout effectivement que avec quelques données tu t'y retrouves. Dans l'ensemble, en plus, chaque. Enfin, quand tu cherches vraiment quelqu'un, je veux dire, c'est, imaginons que tu es la police, hein, tu veux chercher. Tu as accès à tous les fichiers que les publicitaires ont. Tu vas, toi, avoir des informations complémentaires qui permettent facilement de viser. C'est-à-dire que si tu as la base de tous les clients d'un magasin, si en plus toi tu sais où il habite, bon bah c'est beaucoup plus simple de recouper les informations, même si nulle part il y a l'information du nom de la personne, tu vois. Tu peux quand même t'y retrouver, arriver à avoir des infos. Là, imaginons, par rapport au panopticlic, là, imaginons donc mon profil soit assez spécifique, mais quand même présent dans plusieurs pays dans le monde. Bon, bah, il se trouve quand même que moi j'habite en France, et ça c'est une information connue, tu vois. Donc il y a moyen de recouper et de dire, bon, bah, du coup, si tu mets toutes les informations connues, tu peux avoir effectivement un ciblage extrêmement précis. Donc voilà, le Covid a aussi, je crois que c'était le site de l'article, hein, que le Covid avait jeté dans les données personnelles de vos enfants dans les bras des publicitaires. Vous le saurez. C'est déjà dingue les possibilités offertes par l'OSINT. Bah ouais, c'est ça. Quand tu regardes un peu ce que les gens font en OSINT, avec une pauvre photo toute petite, t'arrives à retrouver, je sais plus c'était quoi le dernier truc que j'ai vu passer dans ma TL, mais c'était genre, t'avais un petit bout de photo où ça ressemble à une cascade avec des gens à côté, et y a aucun nom de rien, et en fait, ils arrivaient à partir de juste ça, de retrouver le lieu, bon, ça à la limite c'était assez facile, mais le nom des gens, alors voilà, c'est une photo de touriste quoi, hein, globalement, le nom des gens, où ils habitent, etc., enfin vraiment détaillé quoi. Alors, ils avaient choisi cet exemple-là pas pour rien, j'imagine. Ils avaient un peu setup le truc, mais voilà, c'est déjà avec une pauvre photo, t'arrives à retrouver des gens à l'autre bout du monde. J'imagine même pas quand t'as plein de données, quoi. Enfin, c'est pipeau, quoi. C'est super simple. Et c'est pas la peine de mettre des liens, vous pouvez plus, hein. Je vous rappelle que depuis qu'on s'est fait emmerder par les spam bots, vous pouvez plus faire de liens. C'est fini maintenant. Malheureusement. En tout cas, voilà, sur ce sujet-là, bah, du coup, on est à l'heure de la fin du live. J'avais quelques petits sujets en plus, mais bon, on va pas forcément les développer. En ce moment, vous avez peut-être entendu parler de la faille Confluence aussi. Bon, j'ai pas trop lu dessus, hein, mais globalement, Confluence, c'est un genre de, pareil, d'outils collaboratifs fait par les gars qui avaient Bitbucket, là, Atlassian, je sais plus c'est quoi le nom exactement de la boîte. Donc ils ont un outil qui s'appelle Confluence, qui est un outil collaboratif, qui en ce moment arrête pas de se faire hacker dans tous les sens, parce qu'il y a des failles, hein, globalement. Atlassian, oui, voilà. Il y a beaucoup de failles. Ah, attendez, 2 petites secondes. Hop là, ça faisait un peu de bruit derrière. Donc du coup, oui, Atlassian, qui donc a cet outil-là, et c'est un peu la cible apparemment d'attaque en ce moment. Alors je ne sais pas depuis quand l'outil existe. Mais je pense que jusqu'ici, il n'était pas forcément une cible. Donc les gens s'en occupaient pas plus que ça. Et là, ça n'arrête pas. Donc ça fait au moins 3 ou 4 failles que je vois passer sur Confluence. N'utilisez pas Confluence, manifestement. C'est pas un bon plan, quoi, hein. Donc voilà, il y avait ça. Et il y avait aussi. Bon, c'est pareil, c'est un sujet que je vous balance comme ça. Mais c'était. Il y a des gens qui se sont fait voler leur NFT. Bon. Je pleure pas dessus, hein, mais c'est pour information. Pas mal d'arnaques, hein, qui circulent sur les NFT. Alors déjà, les NFT, vous savez, hein, selon mon avis à moi, sont une arnaque déjà de base. Mais c'est pas leur première faille à Confluence. Ouais, bon, bah d'accord. Ça m'étonne pas. Déjà, j'en ai vu passer plusieurs là. Et donc, ouais, sur les NFT, il y a eu notamment l'exemple, là, cette semaine, d'un admin d'un Discord, en fait, qui s'est fait pourrir son compte Discord. Donc, on a usurpé son identité Discord. Donc, comme il était admin d'une communauté de NFT, en fait, le pirate a lancé un message dans son Discord en disant je vous fais un giveaway, je sais plus, mettez telle information, quoi. Enfin, voilà, c'est lien pour un giveaway, en gros, hein, cliquez sur le lien. Et comme c'était fait par l'admin, bah, tout le monde est tombé dedans. Et du coup, il y a plein de NFT qui se sont fait voler là, cette semaine, là, parce que bah, les gens sont cons, quoi. Hein, Alors, pourtant, ils font de la crypto, donc normalement, ils devraient se méfier un peu, mais bon, j'imagine que, de fait, vu qu'ils font de la crypto, c'est qu'ils n'ont pas compris que c'était une arnaque, donc sont peut-être un peu plus naïfs que les autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on doit dire qu'un crypto-bro, comme on les appelle, c'est plus sensible à la technique qu'un quidam moyen, ou au contraire, se dire que puisque c'est un crypto-bro, il doit être vachement plus naïf. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il faut situer le curseur. Et donc, voilà. Donc, il y a eu ça aussi cette semaine, pour information. Ici. Enfin, il y a plein d'autres choses, hein, mais je vous donne les infos un peu en vrac qu'on n'a pas forcément eu le temps de développer. Bonjour, que penses-tu des bug bounties chez HackerOne? Sont-ils intéressants pour les débutants? Est-il possible qu'une personne puisse divulguer des informations sur différentes vulnérabilités sans le consentement des entreprises concernées? Alors, déjà, bonjour à toi, Joker Rush. Merci de nous avoir rejoints. Alors, un petit peu sur le tard, donc je ne sais pas si je vais pas avoir le temps de développer beaucoup ma réponse. Globalement, des bug bounty, moi j'en fais pas. Je connais des gens qui en font et qui sont très, très respectables. Normalement, si le bug bounty est fait correctement, aka légalement, c'est forcément avec le consentement des entreprises, sinon ça ne se fait pas. Un vrai bug bounty, c'est un programme lancé par l'entreprise, en collaboration avec la plateforme, mais c'est l'entreprise qui l'a demandé. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de raison de se poser trop la question. Après, si on est sur un mec qui a trouvé un bug comme ça au pif, en dehors d'un programme de bug bounty, ça c'est tout un autre problème, quoi. Mais il y a effectivement toute une problématique sur la divulgation des informations. Alors, pour information, pour ceux qui veulent un peu plus de renseignements, je ne vais pas avoir trop le temps. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur la divulgation de données. Je ne sais plus son titre, par contre, je m'excuse. C'est le qui aborde justement le concept de ce qu'on appelle le responsible disclosure. Je me suis fait endormir. Donc du coup, ouais, la divulgation responsable. Donc j'ai une vidéo qui explique un peu les différentes positions par rapport à ça, entre ceux qui diffusent quoi qu'il arrive, ceux qui diffusent jamais avec des contrats de NDA, choses comme ça. Il y a toute une vidéo là-dessus, si vous voulez regarder, je détaille quand même beaucoup plus la réponse là-dessus. C'est un crypto bro, donc c'est un pigeon. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tendance à associer les deux, mais après, voilà. La plupart ne savent pas vraiment comment fonctionne la blockchain qu'ils utilisent, juste qu'il y a de l'argent à faire avec de la spéculation, du coup, ils le font. C'est mon avis aussi, globalement, là-dessus. Donc bon, en tout cas, ils se sont fait enfler. C'est pas les seuls, c'est sûrement pas les derniers. Ne commencez, c'est un peu comme la drogue, c'est n'y touchez pas, c'est ne commencez pas. Bah, les NFT, c'est pareil. Ne prenez jamais la première dose, et puis comme ça, vous serez tranquille, quoi. En tout cas, c'est mon conseil à moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous, les NFT, c'est votre rêve, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Moi, je considère que c'est une énorme connerie à un certain nombre de titres, notamment rien que sur le concept, quoi. Mais je vais pas redétailler, on l'a déjà parlé plein de fois dans les Pirate Talk, donc quand c'était à la mode. Donc revoyez, maintenant qu'ils sont tous en podcast, les Pirate Talk, doit y en avoir un qui cause de NFT, qui s'est marqué dans le titre, hein, je suis sûr. Donc n'hésitez pas à revoir les anciens épisodes. D'ailleurs, celui-là sera aussi en podcast sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Normalement, je commence à en avoir pas mal. J'ai mis à peu près partout, hein, sauf si vous êtes sur une plateforme assez bizarre, mais voilà. Tu as le lien de la vidéo sur le responsive disclosure? Non, je l'ai pas là. Je suis désolé, je l'ai pas sous la main. Ah, attends, je vais regarder vite fait. Regardez vite fait. Hop, hop, hop. C'est dans toute ma série. Alors, en fait, j'ai une série de comment dire, de vidéos qui s'appelle Ethical Hacking sur YouTube. C'est une playlist, en fait. C'est des vidéos montées parce que il y a une époque, je faisais pas que des lives, je faisais aussi des vidéos montées. Et il y a tout un tas de sujets qui sont abordés dans les vidéos montées. Et donc, il y en a une qui parle justement de divulgation. Dès que mon navigateur va finir de charger la page, je te donne le lien. Ne t'inquiète pas. Bon, en attendant, moi je vous dis à bientôt, parce que mine de rien, il est l'heure de se dire au revoir. On a abordé à peu près enfin, tout ce que j'avais mis sur le post-it, on n'a pas forcément détaillé. Mais comme toujours, hein, de toute façon, quand je fais des lives, je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé dans l'actu cybersécurité, parce qu'il s'en passe un paquet. Et en plus, comme on fait des lives que tous les 15 jours, même un peu plus là ce coup-ci, forcément, il se passe pas mal de choses, quoi. Donc, alors, Ethical Hacking, je l'ai sous la main. Non, je ne l'ai pas sous la main. C'est dans les playlists. J'arrive. J'arrive, je vais l'avoir. C'est juste que c'est hyper lent. Forcément, quand tu cherches quelque chose, c'est le moment où c'est lent. Merci pour le conseil. Ah, sur ne touchez pas au NFT? Ouais, c'est. Dites non à la drogue, dites non au NFT. C'est exactement pareil. Alors, Ethical Hacking, il y a 18 vidéos, hein, mine de rien. Il y a quand même mine de rien, sur mon contenu YouTube, n'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a bien sûr le replay de tous les lives, mais il y a aussi des tas d'autres trucs. Hein, donc, faut pas hésiter. Il y a plein de choses à y voir. Alors, du coup, elle s'appelait. Eh ben, tu m'affiches pas la playlist? Hop là, alors, la divulgation, elle s'appelle. Alors, on en parlait des brutes forces, j'ai parlé des failles XS7. Voilà, divulgation de vulnérabilité. Et je vais te donner le lien. Où il est le lien? Il est là. Partager, je le mets dans le chat incessamment tout sous peu maintenant. Voilà, vous l'avez. Donc ça, c'est moi jeune, c'est moi jeune, un petit peu moins de kilos et un petit peu de moins de gris dans la barbe, qui vous explique des choses plus ou moins bien avec du matos un petit peu plus ancien, donc pas toujours, le son n'était pas toujours terrible, mais bon, c'est comme ça. Et l'évolution normale, parce que mine de rien, ça fait un bout de temps que je fais des vidéos. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Une bonne continuation. Donc le replay, évidemment, sera sur YouTube à partir de demain lundi, même si c'est un jour férié pour certains. Moi, il n'y a pas de férié hein, dans les lives, donc vous l'aurez dès demain en replay. Donc comme c'est un pirateau, vous l'aurez aussi en podcast normalement dès demain aussi, le temps que je retrouve comment on fait parce que j'ai pas trop l'habitude encore, mais ça va arriver à peu près en même temps que la vidéo. Et donc la semaine prochaine, week-end prochain, ce sera un week-end hacking. Voilà, week-end prochain hacking. Et dans 15 jours, ben, ce sera un nouveau Piratalk. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine. Salut!